Chéné a eu 5 enfants, dont une enfant trisomique. Il a fait la rencontre de Foi et Lumière et de Jean Vanier, dont il nous apporte ici le témoignage, postérieurement à son décès. Il a été à la tête de la coordination internationale de Foi et Lumière à compter de l'année 2008. Nous le remercions pour ce témoignage.
Le mardi 7 mai 2019, à 2h10 du matin, dans la maison Jeanne Garnier, au centre de soins palliatifs à Paris, Jean Vanier est mort à l'âge de 90 ans. Il a, comme on le voit dans le film qui lui a été consacré, Jean Vanier, le sacrement de la tendresse, il a traversé le voile qui le sépare de Jésus et il est entré dans la lumière. Je voudrais vous dire un peu de son histoire et puis sa biographie et puis je vous dirai ensuite ce que j'ai reçu de lui. Il m'a beaucoup appris et donc voilà, c'est une manière pour moi de rendre grâce pour cette grande et longue vie et belle vie. Ses parents, c'est important de parler de ses parents qui ont été originaire d'une grande famille du Canada. Son père, Georges Vanier, a été un héros de la guerre de 14 parce que à la fin de la guerre, en 1918, tout un régiment de Canadiens en France, dans un village à Chérisy, a été quasiment massacré sur plusieurs centaines de soldats du Canada. Il n'en restait plus qu'une trentaine à la fin, dont Georges Vanier, qui avait pris le commandement à la suite de la mort du commandant précédent. Ces blessures qu'il a eues, il en est sorti vivant, grâce à Dieu, et ces blessures lui ont valu une amputation de la jambe sur place, dans l'urgence, et puis une deuxième fois, il a été opéré, on lui a amputé de sa jambe, et cette opération a eu lieu le 11 novembre 1918. Donc pendant que les clairons sonnaient la fin de la guerre, Georges Vanier était sur la table d'opération. Ça ne l'a pas empêché de continuer à avoir une carrière militaire. Il était déclaré inapte pour l'armée, mais il a tenu à rester et ça a été accepté. Et puis ensuite, il a continué dans une carrière plus diplomatique et politique puisqu'il a été ambassadeur du Canada pour la Société des Nations à Genève. C'est là que Jean est né en 1928. Puis ambassadeur de France, du Canada à Paris. Et puis en 1959, il est devenu le premier gouverneur général du Canada francophone. Il est mort avant la fin de son mandat. Et il a laissé quand même un souvenir, j'en reparlerai un peu plus tard, un souvenir impérissable. Sa mère, Pauline, est née aussi à Montréal, comme Georges. Du côté de sa mère, elle venait d'une grande famille française. Elle était, par exemple, la cousine de Philippe de Hautecloque, le futur maréchal Leclerc. Et donc, après la mort de son mari, elle a rejoint Jean à Trolley parce qu'elle avait été très touchée par l'Arche et elle a vécu toute la fin de sa vie à Trolley. Elle était non seulement la maman de Jean Vanier, mais la maman de tout le monde là-bas, hein, parce que c'était quelque chose d'important pour elle. Elle a même voulu qu'elle soit enterrée à Trolley, mais les Canadiens ne l'ont pas entendu de cette oreille et elle a dû être enterrée à côté de son mari, Georges Vanier, à la citadelle de Québec. C'est une famille très priante. C'est dans cette famille que Jean a appris à prier. Et si Jean prie aussi bien, c'est parce que ses parents devaient aussi prier très bien. L'exemple vient toujours des parents dans cette démarche. Jean est le quatrième enfant de cinq. Je vous parlerai seulement des deux aînés. Thérèse Vanier, sa sœur aînée, est devenue médecin et a beaucoup travaillé dans les soins palliatifs. Donc J'y ai vu un clin d'œil que Jean termine sa vie dans un centre de soins palliatifs à Paris. Thérèse avait aussi dans ses prénoms le nom de Chérizy, qui était ce village où son père a été blessé. Thérèse a aussi cofondé l'Arche dans le Royaume-Uni. Un de ses frères, son deuxième frère, deuxième de la famille, est devenu moine trappiste au Canada sous le nom de frère Bénédicte, et il est mort il y a tout juste 5 ans, c'était au mois de mai 2014, et il est mort quand Jean est venu lui rendre visite. Il attendait sans doute un peu la visite de Jean pour mourir, et quand il est arrivé et qu'il lui a pris la main, il s'est laissé aller et il est mort. Voilà une grande, un beau souvenir que Jean a dû garder de cette dernière rencontre avec son frère. Voilà, Jean est né, comme je le disais, le 10 septembre 1928, à Genève. Son père étant ambassadeur auprès de la Société des Nations. Ensuite, ils ont déménagé pour aller à Paris, son père ayant été nommé ambassadeur du Canada en France. C'est là qu'en 1939, ils ont vécu la débâcle. Ils ont fui, comme beaucoup de Français, sur les routes pour rejoindre Bordeaux. Et de Bordeaux, ils ont été embarqués sur un bateau pour rejoindre l'Angleterre. Georges Vanier est resté derrière, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde, il a dit « allez-y, je vous rejoins ». Et puis là, tout le monde s'est retrouvé à Londres, et de Londres, ils ont rejoint le Canada. Au Canada, donc Jean étant né en 1928, il était encore tout jeune, quand il avait 13 ans, plein milieu de la guerre, Jean a demandé à son père la permission de rejoindre la marine. Son père a d'abord commencé par essayer de le dissuader en disant qu'il était un peu jeune, qu'il fallait qu'il réfléchisse, mais Jean a tellement insisté que son père, au bout de quelques temps, a dit « Écoute, Jean, je te fais confiance. Si c'est ce que tu veux faire, alors tu dois le faire. » Et Jean a dit plus tard que s'il me faisait confiance à ce moment-là, alors je pouvais me faire confiance à moi-même, et si mes intuitions étaient justes, alors je pouvais avancer avec elles. Je dis souvent que lorsqu'il m'a dit « je te fais confiance », il m'a donné la vie. Et il est sûr que la marine m'a préparé pour être là où je suis aujourd'hui. Donc il traverse l'Atlantique pour rejoindre Dartmouth en Angleterre, dans l'école de la marine anglaise. Et il reste dans la marine jusqu'en 1950. Là aussi, il était... heureux de cette marine, il a fait beaucoup de choses. Je crois qu'il même il est tombé un jour à la mer et c'était miraculeux qu'on puisse le retrouver. Mais un jour quand on était avec Foi et Lumière dans une grande rencontre internationale à Québec, c'était en 1998, le successeur de Georges Vanier comme gouverneur général du Canada, Monsieur Roméo Leblanc, a accueilli Foi et Lumière et Jean Vanier comme chez lui. Donc il a accueilli Jean en disant « Je pense que vous reconnaissez les lieux, vous les avez suffisamment fréquentés avec votre père. » Et il a raconté cet épisode que quand il était dans la marine, on est venu voir son père en lui disant que Jean Vanier était un peu désinvolte avec ses supérieurs. Et Georges Vanier a répondu « Tant qu'il est bien avec ses subordonnés, je ne lui dirai rien. » Voilà, donc Jean Vanier était très amusé qu'on lui rappelle cette histoire. Et puis, ça nous a donné aussi l'occasion pendant cette visite, c'était à la Citadelle de Québec, de pouvoir aller rendre hommage aux parents de Jean Vanier, Georges et Pauline Vanier, donc qui sont enterrés côte à côte dans ce bâtiment. En 1950, donc, comme je le disais, il a quitté la marine et parce qu'il voulait, ça lui permettait pas de réaliser ce qu'il avait envie de faire. Il voulait travailler pour mieux vivre l'Évangile dans sa vie quotidienne. Il voulait construire la paix et il a trouvé que dans la marine, c'était pas le meilleur moyen pour y arriver. Donc, il a quitté la marine et il a rejoint un centre spirituel qui s'appelait L'Eau Vive, fondé par le père Thomas Philippe, que ses parents connaissaient et lui avaient recommandé. Il a ensuite eu le désir de rentrer dans les ordres. Il est passé quelque temps au séminaire. Sa mère était très heureuse. Elle lui avait déjà préparé beaucoup d'habits sacerdotaux pour sa grande taille. Et puis finalement, il en est sorti. Et puis, il a préparé une thèse de philosophie. Il a été il a vécu comme un ermite, notamment à Fatima, pour préparer sa thèse. Et puis, il est devenu professeur de philosophie et il habitait quelque temps à Toronto. Et puis, en 1963, il retrouve le père Thomas Philippe, qui avait déjà eu à l'époque quelques soucis. Il avait plus le droit de célébrer la messe en public. Et après, il a été à nouveau autorisé en 1963. Donc, Jean Vanier a rejoint le père Thomas, qui était devenu l'aumônier d'un centre de personnes handicapées à Trolley, qui était le Val Fleury. Et Jean était très très frappé de voir combien ces personnes étaient entassées, sans souci de d'hygiène, sans souci de pudeur vis-à-vis de toutes ces personnes-là. Et le père Thomas l'a beaucoup incité en disant la place des personnes handicapées mentales, comme il pouvait le voir, n'était pas dans un hôpital psychiatrique, mais elle était dans des petites communautés à taille humaine. Et donc, poussé par le père Thomas Philippe, Jean a démarré à acheter une petite maison à Trolley, et il a invité Raphaël et Philippe à commencer l'aventure de l'Arche. Voilà, ça c'était en 1964. Et Jean a pensé que voilà sa communauté, maintenant, il l'avait trouvée avec cette petite maison, cette vie simple, cette vie sans chichi. Il faisait la vaisselle, enfin, tout le monde participait à tout, et c'était vraiment une vie communautaire comme il en rêvait sans doute. Et puis le directeur du Val Fleury, qui était tout à côté de la maison qu'il avait achetée, a été renvoyé, et on a proposé à l'Arche de devenir le directeur du Val Fleury. Et donc, ça a été un peu cette chose qui a démarré, en fait, la besoin de structure, et l'Arche est née de cette aventure de vouloir faire multiplier ces foyers que Jean a voulu d'abord à Trolley, et puis... Ça s'est propagé un peu partout. Ça a beaucoup démarré aussi au Canada, de par les origines de Jean, aux États-Unis, en Angleterre, avec sa sœur Thérèse. Et c'est les quatre grands pays aujourd'hui de l'Arche, qui sont France, Canada, Royaume-Uni et États-Unis. En 1966, donc très très vite après, il rencontre Marie-Hélène Mathieu. Marie-Hélène Mathieu avait fondé l'Office chrétien des personnes handicapées, et on lui avait beaucoup conseillé d'aller rencontrer Jean Vanier à Trolley. Et donc elle y est allée, et ils se sont bien entendus tout de suite, et l'OCH a beaucoup aidé financièrement, l'Arche a démarré. Et Marie-Hélène est devenue membre du conseil d'administration et même vice-coordinatrice internationale de l'Arche. En 1968, il y a une autre chose qui s'est passée, c'est qu'une famille du nord de la France, Gérard et Camille Profi, qui avaient deux enfants profondément handicapés, avaient le grand désir d'aller à Lourdes pour présenter leurs enfants à Marie, à la grotte. Quand ils se sont inscrits au pèlerinage du diocèse, on leur a dit, mais vous n'y pensez pas, c'est pas possible, vos enfants, ils vont rien comprendre, et puis ils vont perturber les autres pèlerins, donc on peut pas vous inscrire. Si vous voulez vous inscrire seul, pas de problème avec vos enfants, la réponse est non. Donc ils avaient très envie d'y aller, ils sont partis quand même en voiture, tous les quatre, et en arrivant à Lourdes, ils ont cherché un hôtel, et pareil, là, ils ont eu du mal à en trouver, jusqu'à ce qu'un hôtelier leur dise... Je peux vous accueillir chez moi, mais on vous servira vos repas dans votre chambre. Et puis, même dans les sanctuaires, et ils ont été très choqués des regards de pitié et de rejet que les gens pouvaient avoir vis-à-vis de leurs enfants. Mais dans leur malheur, ils ont rencontré Jean et Marie-Hélène, Jean Vanier, Marie-Hélène Mathieu, qui très vite après, je crois que ça date du 8 décembre 1968, ça s'est passé à Montmartre, ils ont décidé de faire un pèlerinage à Lourdes pour les familles comme celle de Camille et Gérard Profit. Et ce pèlerinage, après quelques temps de préparation, un peu compliqué, parce que vouloir emmener quelques milliers de personnes handicapées à Lourdes, ça se fait pas comme ça. Il y a quelques réticences à surmonter. Mais néanmoins, à Pâques 1971, 12 000 personnes qui venaient de 15 pays, il y avait déjà 4 000 personnes avec un handicap mental, sont venues à Lourdes du jeudi saint jusqu'à Pâques. Et là, c'était une fête extraordinaire. Il y avait les autorités locales avaient très peur de ce qui allait se passer. Il y avait des policiers, des gendarmes partout autour de la ville. Il y avait des hommes grenouilles le long du Gave pour plonger si jamais il y a un enfant qui tombait dans le Gave. Mais enfin, tout s'est très bien passé. Le chant avec plein d'alléluia qui était prévu d'être chanté le jour de Pâques, il a fusé dès le vendredi saint. Ils ont été tellement heureux que le lundi de Pâques, les parents qui étaient là ont dit à Jean, qui était Marie-Hélène, qui était tout content que le pèlerinage soit fini et que là, ce projet n'était qu'un projet de pèlerinage, c'était pas le projet de fonder un mouvement. Mais les parents ont dit, on veut pas s'arrêter là, il faut qu'on continue. Et donc Jean Vanier a dit, bah écoutez, continuez à vous réunir, à vous rassembler, à faire des rencontres, on verra bien ce que ça donnera avec l'aide de l'Esprit-Saint. C'était le pèlerinage avait été organisé aussi par petits groupes, pour pas que les gens soient perdus dans une foule immense. Il avait été demandé que les gens préparent ça par petits groupes d'une trentaine de personnes, avec des personnes avec un handicap mental, des parents et des amis et un aumônier, de manière à ce qu'ils vivent le pèlerinage avec ces petites communautés. Et puis, donc, c'est ces petites communautés qui ont continué à se réunir. Et très vite, le mouvement a grandi. Et aujourd'hui, il y a 1450 communautés dans 86 pays à travers le monde. L'Arche a grandi aussi de son côté. Et il y a 150 communautés de l'Arche dans 38 pays dans les 5 continents. Voilà, donc pour Foi et Lumière, Jean Vanier est devenu le coordinateur international jusqu'en 1979. C'est Marie-Hélène Mathieu qui lui a succédé, qui était coordinatrice internationale jusqu'en 1990. De 90 à 2002, c'est une Américaine, Maureen O'Reilly, qui lui a succédé. Ensuite, de 2002 à 2006, ce fut Viviane Le Paulin, de Belgique. Et voilà, en 2006, on a eu quelques soucis, une petite crise de croissance. Et voilà, pendant 2 ans, on n'a pas eu de coordinateur international. Et puis, on a essayé de revoir un peu nos structures. Et puis, en 2008, on a refait une grande rencontre internationale à Lourdes, encore une fois, pour essayer de revenir à nos sources. L'évêque de Lourdes, en nous accueillant, nous disait que Foi et Lumière faisait partie du code génétique de Lourdes. Et il lui a été répondu que voilà, Lourdes faisait aussi partie du code génétique de Foi et Lumière. Voilà, j'ai été élu coordinateur international de Foi et Lumière international à 2008 pour 5 ans, et puis une deuxième fois en 2013 jusqu'en 2018, et puis depuis juillet 2018, c'est Raoul, un Espagnol, qui m'a remplacé. Voilà, donc Jean et Marie-Hélène ont eu aussi une grande sagesse qui n'est pas toujours si fréquente dans les mouvements. C'est qu'ils nous ont dit, c'est Jean Vanier qui nous a dit que quand il aurait 75 ans, donc ça doit remonter à 2003, qu'on le verrait plus dans les rencontres du Conseil international de Foi et Lumière, et qu'il nous laissait nous débrouiller comme des grands, qu'il nous faisait confiance. Donc, comme son père avait fait confiance à Jean, Jean a appris à faire confiance, et donc il n'y avait pas de raison qu'il continue à assisté à ces rencontres internationales où l'on décidait un peu des grandes actions, des grandes orientations pour Foi et Lumière. Donc Jean est une, pour redire quelques traits, quelques caractéristiques importantes de lui, pour moi c'est une figure majeure de notre temps. C'est un homme de prière. Je vous ai dit qu'il avait appris à prier avec ses parents dans sa famille. Il était, comme on l'a dit dans le faire-part de décès que Foi et Lumière a publié, c'était un disciple et un ami de Jésus. Voilà, et puis il y a dans la prière de l'Arche, dans les prières de Foi et Lumière, des choses qui me touchent beaucoup. Donc dans la fin de la prière de l'Arche se termine ainsi: Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres. Seigneur, souris-nous dans le regard de tes pauvres. Seigneur, reçois-nous un jour dans l'heureuse compagnie de tes pauvres. Amen. Et puis, dans la prière de Foi et Lumière, il y a aussi ce passage que j'aime bien, qui est « Apprends-nous à découvrir ton visage et ta présence en tous nos frères et sœurs, spécialement les plus faibles. Apprends-nous à accueillir nos blessures, notre faiblesse, pour qu'en elles se déploie ta puissance. » Apprends-nous à te suivre sur les chemins de l'Évangile. Jean Vanier était aussi un homme de paix depuis toujours. C'est pour ça qu'il était rentré dans la marine, c'est pour ça qu'il l'a quitté, c'est pour ça qu'il a fondé l'Arche. Il a essayé de trouver la manière de pouvoir en faire en sorte que les gens vivent de cette paix intérieure qu'il avait découvert en contact de la prière, d'être un disciple de Jésus. C'était la paix qui était la principale caractéristique de ce qu'il recherchait pour les uns et pour les autres. C'était un catholique fervent, mais il était aussi un grand défenseur de l'écuménisme, et il a longtemps, enfin très très souvent, proposé la célébration du lavement des pieds, qui était pour lui une des possibilités de créer une liturgie écuménique où chacun se met à genoux devant son voisin pour lui laver les pieds et se faire petit à côté de lui. Et chacun à son tour, on se lave les pieds les uns les autres. Et il citait l'évangile de Saint Jean, chapitre 13, on dit « Heureux êtes-vous si vous le faites ». Il a même été au conseil écuménique des églises à Genève, où il a proposé devant beaucoup de prélats de différentes traditions chrétiennes un lavement des pieds qui a beaucoup marqué les esprits à l'époque. C'est un homme de la relation. Chaque fois qu'on revoit des qu'on lit des textes de Jean Vanier ou qu'on l'entend parler, à chaque fois il dit que voilà, la soif que la personne handicapée a, une soif énorme de relation, et que si on sait rentrer en relation avec la personne qui ayant un handicap mental, on sait rejoindre Jésus. Voilà, le film dont je parlais tout à l'heure, Jean Vanier, Le Sacrement de la Tendresse, qui est sorti en fin d'année dernière, réalisé par Frédéric Bedos, le dit souvent, parle de cette soif de relation, et une relation de tendresse, comme le dit le titre du film, Jean Vanier, Le Sacrement de la Tendresse. Cette tendresse qui est un véritable sacrement, qui est un signe de la relation qu'on peut avoir avec Jésus. Quand on rentre en relation avec le petit, avec le fragile, avec le pauvre, c'est véritablement avec Jésus qu'on rentre en relation. Et puis, c'est un homme d'autorité. Quand il parlait dans les réunions du Conseil international de Foi et Lumière auxquelles j'ai pu assister, voilà, quand il parlait, voilà, on sentait que le débat était clos et qu'il avait dit ce qui était l'essentiel et que, voilà, on était heureux de l'entendre, et en général, c'était pour mettre en pratique. Mais en même temps, c'était quelque chose qui était dit avec douceur, c'était pas quelque chose qu'on sentait qui nous était imposé, c'était quelque chose qui était là pour nous faire grandir. L'autorité, l'étymologie du mot autorité, c'est faire grandir. Donc toutes les paroles que j'ai entendues de Jean Vanier dans ses rencontres, ou bien quand il me parlait en tête-à-tête, c'était toujours pour me faire grandir. Et il m'a posé la question un jour, qui m'avait un peu pris de court, parce que, voilà, il me dit « Dis-moi là où Foi et Lumière va bien ». Moi, je m'attendais à ce qu'il me pose la question de savoir où ça allait moins bien pour me donner des conseils. En fait, son conseil, c'était ne perds pas ton énergie à aller éteindre le feu là où ça va pas bien. Va te ressourcer là où ça va bien. Là où ça va bien, c'est l'endroit où tu pourras retrouver des forces, c'est l'endroit où tu pourras repartir, retrouver l'énergie pour repartir et aller aider les autres. Dans une deuxième partie, maintenant, je voudrais témoigner personnellement de ce que j'ai reçu de Jean Vanier pendant les nombreuses années où j'ai pu le côtoyer. Je l'ai rencontré pour la première fois, c'est un souvenir très précis, en 1983, dans une retraite qu'il prêchait dans un foyer de charité en Bretagne. Nous habitions à l'époque à Rennes. Nous avions 4 garçons, tous bien portants, et on nous avait conseillé d'aller suivre une retraite à Tressin. Et on a découvert quelqu'un d'extraordinaire qui prêchait d'une manière si simple. Le thème de la retraite était « Jean est le pauvre, Jésus est le pauvre ». Cela voulait dire que le pauvre, dans la bouche de Jean Vanier, c'était en hébreu, les pauvres, c'est les anawim, c'est ceux qui ne peuvent pas s'en sortir tout seuls et qui ont besoin de l'autre. Donc Jésus a besoin de nous, Jésus a besoin de l'autre, comme le pauvre, la personne handicapée a besoin de l'autre pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir réaliser leurs rêves, leurs désirs. Et voilà, tout ça était basé sur des partages d'évangiles, et Jean Vanier avait un don extraordinaire de raconter l'évangile comme s'il y était, et c'était toujours très très vivant. Et voilà, il m'a appris à découvrir ce monde du handicap que je ne connaissais absolument pas. Il m'a appris à lire l'évangile d'une manière différente, à rentrer, à pénétrer dans cet évangile, parce que lire l'évangile, c'est une invitation à rejoindre Jésus dans cette histoire qui est racontée par les évangélistes. Et voilà, donc j'ai senti ce jour-là, pendant cette semaine, que voilà, qu'on avait reçu quelque chose, mais que ça allait conduire à d'autres choses. Et quand Jean Vanier est mort la semaine dernière, j'ai repris ce que je lui avais écrit quand il avait eu 90 ans, parce que j'ai compris que Jean Vanier avait été un instrument pour moi de découverte du plan de Dieu. J'ai toujours cru que Dieu avait un plan pour moi, et je suis persuadé que Jean Vanier a été celui qui a permis de comprendre et de me révéler ce plan que Dieu avait pour moi. Donc je vais vous lire ce que j'ai écrit, tout simplement, c'est tout simple, donc j'ai pas de prétention à vouloir être quelqu'un de supérieur aux autres. J'essaye d'être un disciple, moi aussi, de Jean. Cher Jean, depuis très longtemps, j'ai toujours pensé que Dieu avait un plan pour moi, depuis au moins 35 ans. Dans ce plan, je devais suivre une retraite à Tressin. Nous y sommes allés avec Isabelle début octobre 1983, et c'était toi qui prêchais cette retraite, dont le thème était « Jésus est le pauvre ». Nous avons failli ne pas rester quand nous avons découvert que de nombreuses personnes ayant un handicap étaient présentes. Heureusement, nous sommes restés jusqu'au bout. Dans ce plan, je devais être un de ceux appelés Anawim, les pauvres de Dieu, qui allaient animer les groupes de partage pendant la retraite. Cela m'a valu de participer chaque matin à un temps de prière avec toi. Je me souviens très bien de ce jour où, pour dire le Notre Père, j'ai mis ma main dans la tienne. Ma main était toute petite dans ta grande main. Dans ce plan, il y avait l'accueil de Julie, qui est née 4 ans et demi après cette retraite. Nous avons compris avec Isabelle qu'au cours de cette retraite, tu avais préparé nos cœurs en nous parlant de foi et lumière. Dans ce plan, il y avait une communauté foi et lumière qui nous attendait à Chaville. Allez, après, Rennes, nous avions déménagé dans la région parisienne, et nous avons rejoint une communauté baptisée Adieuvat quand Julie avait tout juste 1 an. Dans ce plan, il y avait l'appel reçu plus tard pour fonder avec d'autres parents une communauté avec des jeunes enfants. Ce fut fait en février 1991 et la jeune communauté Graines de Moutarde est partie joyeusement quelques semaines plus tard pour le pèlerinage du 20e anniversaire à Lourdes. Une grande foule venue des quatre coins du monde m'a fait découvrir l'universalité du mouvement et la joie qui est le fruit de si belles rencontres. Dans ce plan, il y a eu une deuxième retraite à Tressin avec d'autres parents de notre communauté. On avait besoin de retourner t'entendre avec une autre oreille, l'oreille des parents de Julie. Et c'est là que j'étais parlé vraiment pour la première fois. J'avais demandé à te voir pour te raconter mon histoire et te remercier. Dans mon enthousiasme, je t'avais dit combien j'aimais Foi et Lumière et que j'étais prêt à faire plein de choses pour Foi et Lumière. Et tu m'as répondu « ça viendra, ça viendra ». Dans ce plan, il y a eu une invitation à participer à la rencontre internationale de Foi et Lumière à Varsovie en 1994. J'y suis allé avec joie et j'ai été émerveillé de découvrir des gens tous extraordinaires qui venaient de tous les pays où Foi et Lumière étaient présents. Dans ce plan, il y a eu en 1995, l'année d'après, une proposition des responsables de ma province pour aller participer à une formation dans la province jumelle de la nôtre, en Afrique de l'Est, au Kenya, à Nairobi, avec des participants qui venaient du Kenya, d'Ouganda, du Zaïre, du Rwanda et du Burundi. C'était juste un an après le génocide au Rwanda et j'ai vu des Rwandais qui vivaient encore dans ces souvenirs terribles. Je parlais anglais et c'était la seule condition pour y aller. Cette proposition a été suivie par une deuxième l'année suivante. Il fallait accompagner Marie-Hélène Mathieu pour une session de formation à Kigali. Et puis un an plus tard, on m'a demandé d'y retourner pour s'assurer que ces formations avaient donné de beaux fruits. C'est là que j'ai découvert les belles communautés du Rwanda. Dans ce plan, il y a eu cet appel pour laisser mon nom pour des élections de coordinateur de zone. Ma famille que j'ai consultée était d'accord, mais il fallait que j'aie quelques vacances en plus. Tout tremblant, je suis allé voir mon supérieur hiérarchique pour lui faire cette demande, dont je devinais facilement l'issue défavorable. Mais j'étais surpris de l'entendre me dire « Tu as besoin de combien de jours ?»« 10 », ai-je répondu. Il m'a donné son accord en prévenant que je n'aurais pas moins de travail et que je devrais m'organiser en conséquence. Et puis en juillet 98, à Québec, pendant cette rencontre dont je parlais tout à l'heure, pendant la rencontre internationale, je suis devenu le coordinateur de la zone Europe-Atlantique Nord. Dans ce plan, il y a eu ces nombreuses réunions du Conseil international deux par an où nous avons travaillé ensemble depuis la première en 99 au Liban jusqu'à ce que tu nous dises un jour que tu allais avoir bientôt 75 ans et que nous ne te verrions plus. C'était il y a 15 ans et ces 5 années où nous avons passé beaucoup de temps à travailler ensemble m'ont laissé un souvenir impérissable. Ton calme mêlé à une énergie incroyable, ta douceur mêlée à une autorité sans pareil m'ont énormément marqué. Dans ce plan, il y a encore eu des appels pour accompagner Foi et Lumière dans d'autres continents. En 2003, je me souviens bien avoir été prié un matin à l'oratoire de la ferme à Trolley, et j'avais demandé dans ma prière « Envoie-moi là où tu veux que je serve ». Et l'après-midi de ce même jour, Viviane et Roy, la coordinatrice internationale et le vice-coordinateur international, me demandaient si je voulais bien devenir coordinateur pour l'Afrique. J'ai dit oui, bien entendu. Et j'ai passé 5 ans à découvrir que Foi et Lumière en Afrique était un modèle pour tout le mouvement. La joie, la prière, l'amitié, les grandes valeurs dont nous vivons tous étaient très vivantes dans tous ces pays. Dans ce plan, il y a eu finalement cet appel pour être coordinateur international. C'était à Lourdes en 2008. Tu n'étais pas présent, mais tu es arrivé le soir même et je me souviens très bien de tes encouragements qui avaient suivi ceux de Marie-Hélène Mathieu. J'ai vécu 10 années merveilleuses et je rends grâce à Dieu pour tout ce que j'ai vécu à Foi et Lumière dans ces années de responsabilité. Je ne quitte pas ma communauté et nous allons continuer avec Isabelle et Julie. Merci Julie, je rends grâce à Dieu aussi pour toi. Je me souviens de ce que tu as dit un jour à Trolley alors que tout un groupe venu des Amériques était venu entendre Jean Vanier pour une retraite. Tu as dit comme ça, sans prier gare, « Quand Dieu m'a envoyé dans ma famille, j'étais comme un cadeau pour eux. J'en ai été très ému. Je t'ai même demandé le lendemain si c'était bien ça que tu avais voulu dire. » Et tu m'as dit « Oui, oui, tu as bien compris. » D'un air de dire « N'en parlons plus. » Voilà, Jean, cher Jean, je te suis reconnaissant pour tout ce que j'ai reçu de toi pendant toutes ces années. Je rends grâce pour tout ce que j'ai reçu de Jésus et Marie par ton intermédiaire. Je suis sûr que tu vas continuer de là-haut à veiller sur nous, à nous porter dans ta prière, à continuer à nous donner l'envie de mieux connaître Jésus à travers les plus petits. Je continuerai pour ma part à tenter de suivre fidèlement le plan de Dieu pour moi. Je voudrais ajouter un mot à propos du père Thomas Philippe, dont j'ai parlé à quelques reprises dans la biographie de Jean Vanier. Je lis ce que l'Arche internationale a écrit dans la biographie de Jean, et je pense qu'il est important que l'on sache cela. Le père Thomas s'est consacré, après les débuts de l'Arche, en restant à Trolley, à l'accompagnement spirituel auprès de son réseau de fidèles à la ferme où il s'était installé. Il y est mort en 1993. Mais en 2014, des femmes adultes, sans handicap, ont témoigné avoir été victimes d'abus sexuels par le père Thomas Philippe au cours de leurs accompagnements spirituels. Immédiatement, à la demande des responsables de l'Arche internationale, une enquête canonique a été diligentée par l'évêque accompagnateur de l'Arche. La parole fut donnée aux victimes, les faits confirmés. L'Arche internationale a condamné fermement ces faits et s'est associée aux victimes, consciente de la gravité de leur impact dans leur vie. Dans deux courriers, Jean Vanier a condamné les agissements du père Thomas Philippe tout en exprimant sa difficulté à comprendre, affirmant que quand il a été porté à sa connaissance les dépositions de ces femmes abusées, il a été bouleversé et que peu à peu, il lui a fallu accueillir cette réalité douloureuse. Dans son dernier livre, Jean a dit « Ma relation au père Philippe a été une grande joie et aussi une grande épreuve, peut-être une épreuve plus grande sans que je prenne le temps de la relire pour la comprendre. J'étais happé par l'action et le désir de sauvegarder l'unité de l'Arche. » Aujourd'hui encore, l'Arche poursuit son travail pour mieux comprendre cette page de l'histoire de son fondateur.